de Jean dans le chapitre 13. On étudie chapitre Jean ensemble et nous sommes en train d'atteindre la véritable fin de ce passage. Donc ce passage se passe dans ce que l'Église appelle le lundi-vendredi. Donc c'est sept chapitres pour que Jean nous apprenne tout ce qu'il a à dire. Il y a tellement de choses que Jésus fait sur ces dernières heures de sa vie, et c'est vraiment chouette de pouvoir y regarder. Mais avant de regarder, je voulais dire, je suis content d'être de retour. On est allé aux États-Unis pour les 80 ans de ma mère. Et on est aussi allé voir trois personnes très spéciales. Donc vous pouvez pas très très bien les voir ici. Les trois plus beaux enfants qui ne sont jamais nés de tous les temps. C'est incroyable quand on pense à tous les milliards de personnes qu'il y a sur Terre. Donc celui sur la droite, on a rencontré pour la première fois. Et il est incroyable, il est grand. Et je veux dire vraiment grand. On dirait qu'il est aussi grand que sa sœur au milieu. Je crois qu'il aura besoin de toute sa taille pour pouvoir s'occuper de ses petites sœurs, ses grandes sœurs. En tout cas, on est content d'être de retour. Et on va aller dans Jean, au chapitre 13, et j'aimerais qu'on prie ensemble avant. Père, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais dans cet endroit. Et je prie en ce moment, pendant qu'on étudie ta parole ensemble, que tu puisses parler profondément, profondément, très profondément dans notre cœur. Seigneur, pour certains, c'est un passage familier. Et je prie que ton esprit ouvre leurs yeux sur de nouvelles choses, que tu vas emmener cette vérité profondément dans leur vie, conduire cette vérité. Pour d'autres personnes, ce sera peut-être la première fois qu'ils vont lire ce passage, qu'ils vont voir ce passage. Et je prie qu'ils puissent te voir avec un nouvel éclairage, qu'ils puissent te voir d'une nouvelle manière. Pour ta gloire, je prie. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Maintenant, l'une des choses qui est un très grand avantage d'une église internationale, c'est que la plupart d'entre nous ont fait l'expérience de rencontrer d'autres cultures, de voir des gens qui venaient d'un différent endroit et qui du coup ont une différente manière de penser, une différente manière de voir les choses. Et des fois, c'est surprenant pour nous ce qu'une culture trouve d'important. Ce n'est pas important pour nous, mais dans une autre culture, ce sera très important. Des fois, les petites compagnies, les petites entreprises ont des cultures. Je me souviens, je parlais à un exécutant, un chef commerçant, qui passe énormément de temps à négocier des contrats avec des partenaires. Et après 3 semaines sur le travail, il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse erreur. En négociant son contrat, il n'avait pas insisté sur le fait d'avoir un petit panier en bois dans son bureau. Quiconque dans la compagnie pouvait être important avait une poubelle en bois. Et il en avait une en plastique, ce qui voulait dire qu'il était personne dans cette compagnie. Parce que dans la culture de cette entreprise, avoir une poubelle en bois était important. Ici, Jésus fait quelque chose qui est dans ma culture bizarre. On ne lave pas les pieds des autres dans ma culture. La seule manière dont je peux voir le besoin de ça, c'est quand Janet et moi étions avec YWAM à Hawaï. Et on avait des sandales tout le temps et passait beaucoup de temps à marcher sur des routes poussiéreuses. Et à la fin de la journée, nos pieds étaient noirs. Et avant d'aller au lit, on prenait un petit moment pour laver nos pieds. C'est le seul moment. Maintenant, je ne lave pas mes pieds avant d'aller au lit parce qu'il n'y a pas ce besoin. Mais ici, il y en avait un besoin. Et dans la culture des temps de Jésus, c'était important de se laver les pieds. Je suspecte qu'à la fin de la journée, les mères diraient, les enfants, allez laver vos pieds. En fait, je suspecte que même avant d'avoir le souper, elles diraient, les enfants, allez laver vos pieds. Ça faisait partie de la culture ici. C'était quelque chose que vous faisiez normalement dans votre vie. Maintenant, si vous étiez riche, si vous aviez beaucoup d'argent, vous aviez des servants. Et les servants lavaient. Les servants lavaient les pieds. Ils vous laveraient les pieds. Ça, c'est le boulot d'un servant, si vous étiez riche. Mais ce n'était pas un job de n'importe quel servant. Si vous aviez plusieurs servants, c'était le travail du servant le plus bas sur l'échelle. J'essaie de réfléchir et de comprendre comment est-ce que je rends cette chose, ce fait qui du coup n'a pas d'impact dans ma culture, comment est-ce que je le connecte pour que c'est un impact émotionnel dans ma vie? Qu'est-ce qui fait partie de ma culture qui serait l'équivalent de faire quelque chose comme ceci? Et ensuite, je me suis souvenu d'une vidéo que j'ai vue il y a quelques années. C'était une vidéo de quelqu'un qui était très connu pour être très riche. Voilà. Il était propriétaire d'hôtels et continue d'être propriétaire d'hôtels. Et c'était aussi une personne à la télévision américaine. Il est connu pour avoir des grands cheveux qui vont vers l'arrière. Et maintenant, il peut se balader sur Air Force One. Mais avant qu'il soit président, il a fait cette vidéo où il faisait des petits boulots dans son hôtel. Et le point de ça, c'était pour être un contraste avec son statut de milliardaire de Donald Trump et les gens travaillaient avec lui. Donc la première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'occupait, il était cocher. Et il prendrait la valise de quelqu'un et la mettrait dans sa voiture. Wow. Je n'ai pas porté de valise. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai porté une valise. Je pense que Donald Trump l'a peut-être fait une fois en 50 ans pour cette vidéo. Et ensuite, il a fait une promenade avec le chien de quelqu'un. C'était un service qu'ils avaient à l'hôtel. Ensuite, il faisait partie des gens qui s'occupent des chambres. Voilà ce qu'il voulait dire, en fait, les personnes qui font le ménage. Donc il est avec servante et il va nettoyer l'une des chambres de son hôtel. Comment est-ce que vous allumez l'aspirateur? Il ne savait pas trop. Et ensuite est arrivée la salle de bain. Et il a mis ses mains exactement comme Arsène vient de le faire, juste comme ça. Et a dit, je ne fais pas les toilettes. Et il a refusé. Nettoyer les toilettes était en dessous de lui. Il lavait le lavabo, mais il ne toucherait pas les toilettes. Et je me suis dit, voilà. Laver les pieds des gens au temps de Jésus était l'équivalent dans ma culture de laver les toilettes. C'était quelque chose que vous aviez besoin de faire quand vous n'aviez pas de servant. Mais si les servants devaient choisir qui nettoierait les toilettes, ce serait celui qui est le plus bas sur l'échelle. Plus bas de l'échelle, les servants. Et le voilà, assis à ce repas, en lavant les pieds de ses disciples. Le plus bas, le job le plus bas qui existait à cette période. Quelque chose qui aurait été complètement inattendu. Et il lave le pied de ses disciples. Et ça dit, il est allé voir Simon, Simon-Pierre, et il lui dit, « Toi, Seigneur, tu vas me laver les pieds ?» Et je suis sûr, voilà ce que pensait Simon-Pierre. Je suis certain de ça. Parce que j'adore Simon-Pierre parce qu'il est tellement direct. Et il va directement sur le front avec sa foi, sans y réfléchir. Et on fait tout ça, et je l'adore pour ça. Et je pense qu'il est assis ici en se disant, c'est le Messie. Cette personne est le Fils vivant de Dieu. C'est celui qui porte la planète entière. C'est celui qu'on doit louer. Cette chose qu'il fait est un test pour voir si on va l'accepter.
Or whether we'll say,
ou dire, non, Jésus, je sais qui tu es. Tu es celui que Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas loin d'enlever ses chaussures. Je ne vais pas te laisser faire ça. Je suis celui qui devrait laver tes pieds, Jésus. Et dans le verset 7, Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu comprendras par la suite. » Et Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Et Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Et Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. »
I'm all in, Jesus.
Je suis complètement à fond dedans, Jésus. Et Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes pur. Vous, au pluriel, êtes pur. Mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Jésus va expliquer pourquoi il lavait les pieds. Mais laissez-moi un petit moment pour vous expliquer ce que Jésus voulait dire par être pur, ce qui se passe ici. Il va continuer en nous disant dans le chapitre 15 de Jean que les disciples sont purs à cause des paroles qu'il leur a dites. Dans Tite, Ça parle du fait qu'on a renaît à travers la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu,
voilà.
Donc l'évangile qui est venu à nous, ça nous rend pur, c'est la parole de Dieu qui nous rend pur. Ce qu'on a vu dans Colossiens. Donc il dit aux disciples, vous êtes tous purs parce que vous avez entendu et cru dans le message de l'évangile. Vous avez entendu et cru dans l'évangile. Donc, vous êtes renaît par l'Esprit et vous êtes maintenant purs que vous avez été lavés de vos péchés. Mais pas tous d'entre vous ont cru. Il y a une personne ici qui n'a pas cru. Et il va le pointer. C'est Judas qui va le trahir. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire par une personne qui a besoin d'un bain, mais qui n'a pas besoin d'être complètement lavé parce qu'ils ont, ils sont renaît. Ils ont renaît déjà par la parole. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin de laver nos pieds? Parce que même si on a, on a renaît et qu'on est maintenant pur, on continue à pécher. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se laver les pieds. Répondons. Parce que si on pêche, la vérité n'est plus en nous. Mais si on se repent, on va être purifié dans la justice de Dieu. La justesse de Dieu. Donc chaque jour, on a besoin de laver nos pieds. Pour ça. Même si on a été purifié, mais on a besoin de ce lavage continuel, ce lavement continuel. Mais ce n'est pas tout ce que veut dire Jésus par ce passage, tout ce que veut dire Jean à travers ce passage. Donc si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous avez renaît par l'Esprit de Dieu, vous avez été sanctifié, vous avez été purifié, vous avez été lavé, vous avez eu un bain. Vous êtes propre. Vous aurez encore à vous occuper de pieds sales, mais globalement, vous êtes propre. Verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Comprenez ceci. Je vais vous l'expliquer. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.
Should do just as I have done to you.
En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux. Et ensuite, il pointe vers Judas et il dit au verset 24, je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi devez vous aimer les uns les autres. Par ceci, tous les gens vont savoir que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus, en lavant les pieds de ses disciples, leur montrait un exemple de ce à quoi ressemble l'amour dans l'action. Il a vu le besoin et il l'a rempli. Peu importe le statut, il a vu ce besoin et du coup il l'a rempli. Et il était prêt à servir les autres. Et c'est l'un des traits caractéristiques des disciples de Jésus, la volonté de servir. la volonté de servir de différentes manières, de manières, de choses qui sont des fois petites ou des choses qui sont en dehors des projecteurs. Si vous vous souvenez, il y avait David qui était là, qui était du coup le dirigeant de l'entreprise Lilly, qui est une très grande entreprise américaine ici. Et saviez-vous que beaucoup de dimanches, ils étaient là plus tôt le matin pour mettre en place les chaises? Est-ce qu'il récupérait des crédits pour ça? Non. Mais il était là pour servir. Il était là pour aider.
Voilà.
Bex va joindre YWAM. Et le ministère a tellement explosé quand ça a commencé, quand ils ont découvert que les pays étaient prêts à ouvrir leurs portes pour leur ministère. S'ils étaient prêts à nettoyer les latrines dans les camps de réfugiés. Dites-nous pourquoi vous faites ça. Laissez-moi vous parler de Jésus. Abaissez-vous. Réfléchissez à quel point c'est moche si les chrétiens ne font pas ça. L'un des moments les plus incroyables de ma vie était les funérailles de ma grand-mère. Ma grand-mère était morte à Minneapolis, mais était née à Sioux Falls, quelques heures de Minneapolis. Donc on allait là-bas pour le funérailles. Un pasteur qui nous était inconnu a fait les funérailles et on s'est regroupé à la maison de la sœur de ma grand-mère après pour avoir un petit temps ensemble en tant que famille. Donc, le pasteur est venu avec les cheveux blancs, il s'est assis dans le canapé, dans la chaise du salon, et l'une des sœurs de ma grand-mère, elle avait les yeux rouge à cause de pleurer. Ils sont allés lui dire qu'il y avait des sandwichs, des cookies, du café, des choses comme ça dans la salle à manger qu'il pouvait aller se servir. Et il l'a regardé et elle lui dit, non, vous pouvez me servir. C'était moche. C'est vraiment moche. Il pensait, d'une certaine manière, qu'il devait être celui qui devait être servi. Et c'était à l'opposé de qui est le Christ. Et c'est facile de pointer vers ça, parce qu'on a un exemple assez visible. Mais combien de fois est-ce qu'on regarde de l'autre côté? On tourne le regard. Combien de fois est-ce qu'on dit non? Je ne vais pas servir. Je suis trop occupé. C'est en dessous de moi. Je n'ai pas envie de m'impliquer. Et ça arrête notre...
And is ugly to the world.
Notre spiritualité qui augmente, ça la stoppe et c'est moche aux yeux du monde. Donc voilà, tout ce qui s'est passé, ce qu'on a lu à Jésus, est vrai à travers chacun d'entre nous. Il nous appelle vers une vie de service. On vit. Désolé, je pensais qu'il y avait une guêpe devant mon nez. On vit dans une culture qui est orientée vers le consumérisme, où beaucoup trop souvent, on voit les églises comme des restaurants. Qu'est-ce qu'ils servent? Est-ce que j'aime la nourriture? Est-ce que j'aime les choses qu'il y a à faire chaque jour? Et si oui, je vais y aller et je vais revenir et revenir et je serai servi. Mais Dieu ne designe pas l'église pour être comme un restaurant, mais une famille. Quand je vais au restaurant, je ne m'attends pas à nettoyer la salle de bain ou les toilettes. Non, c'est le travail de quelqu'un d'autre. À la maison, par contre, je m'occupe de nettoyer les toilettes. Peut-être pas aussi bien que Janet aimerait que je le fasse, mais je m'occupe de nettoyer les toilettes. Parce qu'on est une famille. Et on est appelé à s'aimer les uns les autres et à se servir, les uns les autres. On le sait, Mais laissez-vous montrer ce que Jésus dit dans le verset 17. Il dit, « Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. »
Blessed are you if you
soyez bénis.
Do them. The blessing isn't
pourvu que vous le mettiez en pratique. La bénédiction n'est pas dans le fait de le savoir, c'est dans le fait de le faire. Alors prenez la forme d'un servant, la manière que Jésus l'a faite et nous l'a montré en exemple. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que vous faites ça? Comment est-ce possible de faire les petites choses, les choses difficiles à faire, se rabaisser? Laissez-moi vous rappeler de ce que Jean dit au début du chapitre 13, avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Vous êtes rendu compte? Il savait que son heure était venue, mais regardez le verset 3. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu, et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table et a fait cet acte de service. Jésus savait qui il était. Il savait qui il était. Et parce qu'il était sécurisé là-dedans, il était tout à fait prêt à faire tout ce que le Père voulait qu'il fasse, sans payer attention à quelle bassesse cet acte était. Même s'il était dans la forme de Dieu, il ne considérait pas les qualités de Dieu, les choses sur lesquelles il fallait s'accrocher, se raccrocher, mais il s'est rendu humble. Il a pris la forme d'un servant, même jusqu'à aller sur la croix, parce qu'il savait qui il était. La même chose, si tu peux mettre ça, Yann. Jésus savait qui il était et où il allait. En tant que résultat, il pouvait aimer de manière complète, sans se préoccuper de son statut, de son image ou de sa réputation. Personne ou aucun acte d'amour n'était sous lui. Il était prêt à aller, aller parler de l'Évangile auprès des prostituées, des lépreux. C'était tout à fait bon pour lui parce qu'il était sécurisé dans qui il était. Son statut n'était pas important. La même chose est vraie pour nous. Si nous savons qui nous sommes et si nous savons qu'on a été sauvés par la grâce, que c'est un don du Dieu, qu'on l'a reçu et qu'on sait où on va.
Les
amis, on va à l'endroit où les rues sont faites d'or, de pavés d'or. On le sait. Le statut ici devient secondaire. La réputation devient secondaire. Ce qui devient important, c'est aimer le Seigneur et aimer les autres. Et donc, on est prêt à faire les petites tâches. Les tâches qui ne nous apportent pas de reconnaissance, qui ne nous font pas avancer socialement, parce qu'on réalise que ce royaume est un royaume à l'envers, ou ce qui est haut est bas, et tout ce qui est bas est haut. Si vous voulez être grand, vous avez à vous rabaisser. Si vous voulez être des disciples de Jésus-Christ, vous devez suivre son exemple et vous laver les pieds les uns les autres. Donc c'est mon défi pour nous ce matin. François, pendant les annonces, a mentionné qu'il y a beaucoup de choses qui ont besoin de se passer dans l'Église, et surtout pendant l'époque de l'été, parce qu'il y a des gens qui partent en vacances. Je sais que voilà, l'Église est pleine ce matin, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là parce que vous avez beaucoup de visiteurs. Donc si vous pouvez nous aider, voilà, à mettre en place les chaises, les enlever, nous aider à préparer la salle le dimanche matin. Si vous voulez laver les toilettes, vous êtes les bienvenus pour faire ça. Mais ce n'est pas seulement les choses du dimanche matin, mais c'est vivre un style de vie d'amour. Et vraiment dire, comment est-ce que je peux remplir les besoins des gens et comment je peux pratiquement agir pour ça. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la manière dont tu nous transformes. Seigneur, par cette église, de la raison d'être de cette église, c'est qu'on soit des servants à travers le monde. Et je prie que tu puisses prendre ce passage et nous l'inscrire au fond de notre cœur, que tu puisses nous appeler à être tes servants et à trouver des manières de te servir, de servir les autres. Aide-nous à trouver des manières de servir, car servir n'est rien de plus que l'amour en action. C'est pour ta gloire et en ton nom. Amen.